Chapitre 9. La poudre et les armes. C'est Mr. Harrow, le second, un vieux marin brun avec une boucle d'oreille, qui les accueille à bord de l'Hispaniola, avant que le capitaine Smollett ne vienne annoncer que rien ne lui convient à bord. « Je n'aime ni le voyage, ni l'équipage, ni mon second. » Le propos met le chevalier hors de lui, mais le docteur, plus patient, obtient de Smollett qu'il s'explique. « Tout le monde, dit-il, y compris le perroquet de Silver, sait tout sur le but du voyage. Or, il aurait fallu, étant donné ce qu'il est, le garder secret. » Soutenu par le docteur qui devine que le chevalier a trop bavardé, le capitaine propose plusieurs solutions pour renforcer la sécurité à bord, puisqu'il n'est plus question d'annuler l'expédition. Il suggère que la poudre et les armes soient transférées à l'arrière, sous la cabine. Il demande aussi que 4 des couchettes aménagées à l'arrière soient occupées, comme prévu, par Mr. Trelawney, le docteur, Hunter et Joyce, les serviteurs du chevalier, et que les 2 dernières aillent à Redruth et à Jim. Lui-même et Harrow, le second, à qui elle devait revenir, vont loger sur le pont dans le capot. « Vous voulez transformer l'arrière en arsenal? Craignez-vous une butinerie ?» demande le docteur. « Pas un capitaine n'aurait le droit de mettre la voile s'il croyait une telle chose. Je préfère prendre des précautions, voilà tout. Pour tout vous dire, je venais présenter ma démission au chevalier. Mais comme je vois qu'il est accompagné d'un homme raisonnable, aussitôt, l'équipage se met au travail pour transférer la poudre et les armes, ce à quoi il est encore occupé quand arrivent les derniers matelots, et avec eux, Long John qui demande. « Eh bien, les gars, que se passe-t-il »« Il y a qu'on change la poudre de place, » répond l'un des hommes. « Ordre du capitaine. » « À ce compte-là, on va rater la marée. » Mais le capitaine Smollett n'est pas partisan des longues causettes. Il interpelle le cuisinier. « Feriez mieux de descendre. Les hommes vont vouloir leur souper tout à l'heure. »« Bien, monsieur, » réplique Long John avant de disparaître vers les cuisines. Puis, à Jim, qui surprend à rêvasser, « Et là, toi, le mousse, » lance-t-il. « File à la cuisine, aidez le coq. Pas de favoritisme sur mon navire. » Dès cet instant, le camp des ennemis du capitaine compte un nouveau membre. Chapitre 10. Le voyage. Toute la nuit, nous avons été en grande effervescence, à mettre tout en place et à avoir un plein bateau d'amis du chevalier, Mr. Blandy et les autres qui sont venus nous souhaiter un bon voyage et un heureux retour. Il n'y a pas eu une seule nuit à l'amiral Benbow où j'ai eu moitié autant de travail. J'étais sur les rotules quand, un peu avant l'aube, le maître d'équipage a sifflé la manœuvre pour mettre les matelots au bar du cabestan. J'aurais pu être 2 fois plus fatigué que je n'aurais pas quitté le pont, tant tout était nouveau et plein d'intérêt à mes yeux. Les ordres brefs, les notes aiguës du sifflet, les hommes s'activant chacun à sa place dans le demi-jour des lanternes. « Et maintenant, barbecue, chante-nous-en une !» a crié une voix. « La vieille rengaine !» a crié une autre voix. « D'accord, les gars !» a dit Long John, qui se tenait là, sa béquille calée sous le bras, et qui aussitôt a entonné l'air et les paroles que je connaissais si bien. « À 15 sur le coffre du mort !» Là, tout l'équipage a repris en cœur. « Yo-ho-ho ! Et une bouteille de rhum !» Et au troisième ho, les hommes ont fait un effort pour pousser ensemble la barre vers l'avant. Malgré l'excitation du moment, cela m'a instantanément ramené à ce vieil amiral Benbow, et il m'a semblé entendre la voix du capitaine piauler à l'unisson des autres. Mais bientôt, l'ancre est sortie de l'eau. Bientôt, elle a pendu toute dégoulinante à la proue. Bientôt, les voiles se sont gonflées. La terre et le bateau ont filé chacun de son côté. Et avant que je ne descende dormir 1 heure ou 2, l'Hispaniola avait entamé son voyage vers l'île au trésor. Je ne vais pas raconter la traversée en détail. Elle s'est passée pratiquement sans histoire. Le bateau était bon, l'équipage constitué de marins capables, outre que le capitaine connaissait à fond son affaire. Mais avant de parvenir à l'île au trésor, il s'est produit 2 ou 3 choses qui méritent d'être connues. Mr. Harrow, en premier lieu, s'est révélé pire que le capitaine l'avait craint. Il n'avait aucune autorité sur l'équipage, et avec lui, les hommes faisaient ce qu'ils voulaient. Mais ce n'était pas là le pire. Après 1 jour ou 2 en mer, il apparut sur le pont, l'œil hagard, les joues rouges, la langue pâteuse, bref, en montrant tous les signes de l'ivresse. À plusieurs reprises, il a fallu l'envoyer aux arrêts dans la cale. Régulièrement, il lui arrivait de tomber et de se couper. Parfois, il restait allongé toute la journée sur sa couchette sous le capot. Et puis, pendant 1 jour ou 2, il restait sobre et faisait son travail de façon à peu près passable. En même temps, nous n'avons jamais pu découvrir où il trouvait à boire. C'était le mystère du bateau. Nous avions beau le surveiller, impossible de savoir. Quand nous le lui demandions en face, il riait, s'il était saoul. Et s'il était à jeun, il hurlait et jurait ses grands dieux qu'il n'avait jamais bu autre chose que de l'eau. En tant qu'officier, il était inutile. et en plus, il donnait un mauvais exemple aux hommes. Il était clair pourtant qu'à ce rythme, il finirait par se tuer. Si bien que personne n'a été surpris, ni vraiment triste, quand par une nuit sombre, alors que la mer était grosse, il a disparu pour ne plus jamais être revu. « Passez par-dessus bord, » a dit le capitaine. « Eh bien, voilà qui m'épargnera d'avoir le maître au fer. » Nous nous sommes tout de même trouvés avec un officier en moins, et il a fallu donner de l'avancement à un des hommes. Le Bosco, Job Anderson, était le plus qualifié pour ça. Il a conservé son ancien titre tout en faisant fonction de second. Mr. Trelawney avait beaucoup navigué, et son expérience nous a été fort utile, car il lui est souvent arrivé de prendre un quart quand le temps était beau. Quant au quartier-maître, Israël Hans, c'était un vieux marin expérimenté, soigneux et malin, à qui on pouvait faire confiance presque en toutes circonstances. Il était l'intime de Long John Silver, et mentionner ce nom me conduit à parler de notre coq, Barbecue, comme le surnommaient les hommes. À bord du bateau, il portait souvent sa béquille autour du cou, attachée par une lanière, de façon à avoir les deux mains libres autant que possible. Ce n'était pas rien de le voir appuyer le pied de sa béquille contre une cloison, et ainsi caler cuisiner comme n'importe qui sur la terre ferme, en suivant les mouvements du bateau. Le voir traverser le pont par gros temps était encore plus curieux. Il avait un filin, ou deux, tendu pour l'aider à traverser les espaces vides. Les boucles d'oreilles de Long John, on les appelait. Et il se déplaçait d'un endroit à l'autre, tantôt en utilisant sa béquille, tantôt en la traballant attachée à la courroie, aussi vite que n'importe qui d'autre. Il arrivait pourtant à certains des hommes qui avaient déjà navigué avec lui de s'apitoyer en le voyant ainsi diminuer. C'est pas un gars ordinaire, Barbecue, m'a dit une fois le quartier maître. Il a fait des études quand il était jeune et il parle comme un livre ouvert quand ça lui dit. Et d'un courage. Un lion, c'est rien à côté de Long John. Je l'ai vu attraper 4 types et les assommer en leur cognant la tête l'une contre l'autre et sans armes. Tout l'équipage le respectait et lui obéissait. Il avait une façon bien à lui de s'adresser à chacun et de rendre service à tout le monde en particulier. Il était invariablement gentil avec moi et toujours content de me voir dans la cuisine qu'il gardait propre comme un sous-neuf, avec les plats bien astiqués pendus au mur et son perroquet dans sa cage dans un coin. « Viens par là, Hawkins, » disait-il. « Viens causer un brin avec John. Personne n'est le bienvenu autant que toi, fiston. Assieds-toi et écoute les nouvelles. Voici Captain Fleet. Flint. J'ai donné à mon perroquet le nom du fameux pirate, le Captain Flint. Alors, Captain Flint, tu prédis le succès de notre voyage, n'est-ce pas? Et le perroquet disait à toute vitesse, pièce de huit, pièce de huit, pièce de huit, au point qu'on s'étonnait que le souffle ne finisse pas par lui manquer et que John devait couvrir la cage avec son mouchoir. En fait, cet oiseau, disait-il, a peut-être 200 ans, Hawkins. La plupart vivent, pour ainsi dire, éternellement. Et si quelqu'un a été le témoin de plus de crimes que lui, ça ne peut être que le diable lui-même. Il a navigué avec England, le grand capitaine England, le pirate. Il est allé à Madagascar, à Malabar, au Suriname, à Providence et à Portobello. Il a assisté à la remise à flot des bateaux d'argent qui avaient coulé. C'est là qu'il a appris à dire pièce de huit. Et c'est pas étonnant, parce qu'il y en avait 350 000, Hawkins. Il était à l'abordage du vice-roi des Indes, au large de Goa. À le voir, on l'aurait pris pour un bébé, mais tu sentais la poudre, hein, capitaine. Paré à virer, hurlait le perroquet. Paré à virer. Ah, c'est un fameux gaillard, disait le cuisinier. Et il lui donnait un bout de sucre qu'il tirait de sa poche. Alors l'oiseau pinçait les barreaux avec son bec et se mettait à lâcher en série des jurons d'une grossièreté tout à fait incroyable. Et voilà, ajoutait John. Impossible de toucher au goudron sans se coller les doigts, mon gars. Mon pauvre vieil innocent d'oiseau jure comme un damné, sans être plus malin pour autant, tu peux le croire. Il jurerait pareil, pour ainsi dire, devant un chapelain. Et John se touchait les cheveux qui bouclaient sur son front, de cette façon solennelle qui me faisait le considérer comme le meilleur des hommes. Cependant, le chevalier, le capitaine Smollett, était toujours en froid. Le chevalier n'en faisait pas mystère, il méprisait le capitaine. Le capitaine, de son côté, ne lui parlait jamais, sauf s'il s'était adressé à lui d'abord. Il se montrait alors concis et cassant, et ne disait pas un mot de trop. Quand on l'y contraignait, toutefois, il admettait qu'il s'était sans doute trompé sur le compte de l'équipage, parce que certains des hommes se révélaient d'excellents éléments, selon ses critères, et que tous se comportaient convenablement. Quant à la goélette, il s'en était entiché d'emblée. Elle tient le vent plus fidèlement qu'un homme est en droit de l'espérer de sa propre épouse. Mais ajoutait-il, tout ce que je puis dire, c'est que nous ne sommes pas rentrés au bercail, et que je n'aime pas cette expédition. En l'entendant, le chevalier tournait le dos et arpentait le pont à grands pas, le menton haut. Encore un peu à devoir subir cet individu, et j'explose, disait-il. Nous avons eu quelques jours de gros temps qui a juste démontré les qualités de l'Hispaniola. Tous les hommes à bord semblaient contents, et il se serait montré bien difficile sinon, car je ne pense pas qu'un seul équipage a été autant gâté depuis que Noé a pris la mer. Ils avaient double ration de grog au moindre prétexte, du pudding, même les jours de semaine, si par exemple le chevalier apprenait que c'était l'anniversaire d'un des hommes, et toujours une barrique de pommes qui restait ouverte, de telle sorte que quiconque en avait envie pouvait se servir. Je n'ai jamais vu que cela puisse donner quoi que ce soit de bon, disait le capitaine au docteur Lipsey. Gâtez les hommes d'équipage et vous en faites des démons. C'est ce que je crois. Il a pourtant résulté du bon de ce tonneau de pommes, comme vous allez l'entendre. Sans lui, nous n'aurions pas été mis sur nos gardes, et nous aurions peut-être tous été tués par traîtrise. Voici comment les choses se sont passées. Nous avions abandonné les Alizés pour prendre le vent menant à l'île, je ne suis pas autorisé à être plus précis, et nous voguions rapidement vers elle, en ayant un homme en vigie jour et nuit. D'après les calculs les plus larges, en effet, c'était le dernier jour de notre voyage aller. D'un moment à l'autre, cette nuit-là, ou au pire avant midi le lendemain, nous devions être en vue de l'île au trésor. Le cap était au sud-sud-est, nous avions une brise régulière du côté de côté et une mer calme. L'Hispaniola roulait régulièrement en trempant son beaupré par intervalles, ce qui faisait jaillir une gerbe d'embrun. Toutes les voiles étaient déployées. Tout le monde était de belle humeur, parce que nous étions presque au terme de la première étape de l'aventure. Juste après le crépuscule, alors que mon travail fini, je regagnais ma couchette, il m'est venu l'envie de croquer une pomme. Je suis montée sur le pont. Les matelots de quart étaient tous à l'avant et guettaient l'île. L'homme de barre surveillait les voiles, tout en sifflotant doucement pour lui-même. C'était le seul bruit audible, en dehors, du frottement de la mer contre l'avant et les bords du bateau. Je me suis glissée dans la barrique où il ne restait presque plus de pommes, et là, assis dans le noir avec le bruit de l'eau et le mouvement berceur du bateau, soit je m'étais endormie, soit je n'allais pas tarder à le faire, quand un homme de forte corpulence est venu s'asseoir bruyamment juste à côté. La barrique a tremblé quand il y a appuyé son dos, et je m'apprêtais à sortir quand l'homme s'est mis à parler. C'était la voix de Silver. Après avoir entendu une douzaine de mots, je ne me serais montrée pour rien au monde. Je suis restée là, écoutée en tremblant, car ces 12 mots m'ont fait comprendre que le salut de tous les gens honnêtes qui étaient à bord dépendait de moi et de moi seule.